Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est tiré du livre des Proverbes. Alors, c'est un sujet qui m'est à cœur en ce moment. Et je me dis que... Alors, le mot transgression aussi peut être traduit par différents mots. Ça peut être péché, ça peut être désobéissance, ça peut être rébellion. Enfin, ça peut, si vous voulez, englober pas mal de choses. Et donc, ça veut dire que celui qui cache, donc celui qui met ça dans un tiroir, vous savez, des fois, on a des trucs chez nous, on a des endroits, vous êtes peut-être pas comme moi, mais moi, j'ai des endroits où je dis ça, je stocke ça dans un coin, et puis au bout de 20 ans, vous ouvrez, tu dis, ah, j'ai ça, enfin, etc. Ce sont des choses, des fourre-tout, où on vient mettre des choses. En gros, là, la parole de Dieu, c'est Salomon qui a écrit ça, est en train de nous dire que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire qu'il ne grandit pas, il ne s'épanouit pas, il ne vit pas vraiment. Tandis que celui qui les avoue et les déleste obtient miséricorde. Et j'ai une image à vous donner qui est une image très intéressante. C'est l'image, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont pompiers ou pompiers volontaires ici, ou qui ont déjà fait des extinctions de feu. Non, il n'y en a pas ? Bon. Dans le temps, j'en ai fait un peu quand je travaillais dans la chimie. On faisait des exercices sur feu direct, parce qu'on avait souvent le feu chez nous. Et j'ai rencontré vraiment des situations où le feu était comme en train de couver, si vous voulez. Et je peux comparer ce verset à quelqu'un qui s'aperçoit une pièce de sa maison, que dans une pièce de sa maison, il y a le feu qui part, quoi. Je sais pas, une prise, par exemple, qui fond, et puis voilà. Et puis, cette personne, d'une manière inconsciente, se dit, je laisse ça comme ça. Elle sort de la pièce, elle ferme toutes les entrées d'air, parce que vous savez que pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Donc elle ferme toutes les portes de sa pièce, et puis elle s'en va. En s'imaginant un instant que le feu va s'éteindre tout seul. Et ceux qui font un peu d'études dans le domaine s'apercevront que le jour où tu ouvres la porte, d'ailleurs les pompiers font très attention à ça lorsqu'ils interviennent sur des sinistres, le jour où tu ouvres la porte, tu fais un appel d'air et là, tout remonte à la surface. En réalité, celui qui cache son péché, c'est comme quelqu'un qui a un feu à l'intérieur de lui, un feu destructeur, et il ne peut pas prospérer parce que le jour où il aura beau bâtir sa maison tout autour, il y a quand même le feu dans un coin de son cœur et ce feu-là, un jour ou l'autre, quelqu'un va ouvrir la porte et toute la maison va s'embraser. Je suis moins politiquement correct, là. Hein, d'accord. Alors, je vous parlais d'une femme qui avait un petit problème. Alors, je ne parle pas des femmes... c'est une femme dans la Bible, mais elle l'intéresse aussi, vous intéresse, messieurs. Hein, d'accord. Parce que nous, on est à notre côté macho, on se dit, bon, c'est une femme, ça ne nous intéresse pas. Mais en réalité, cette femme représente une personne. Une personne qui va, à un moment donné, se rendre compte qu'il y a le feu dans sa maison. Qui a une feu dans un coin de son cœur et qu'elle a besoin vraiment de se dire, elle est en train de se dire, je veux vraiment que ce feu soit éteint. Cette femme, on n'a pas de nom, on peut s'imaginer qu'elle s'appelle Marie, enfin bref. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme, c'est un homme qui était religieux. Alors dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il y avait des pharisiens, des scribes, c'était des gens qui avaient vraiment une sorte d'autorité, qui était vue des gens, qui était très écoutée, qui était un peu, qui servait dans le temple, qui gouvernait le temple, etc. Et puis, il y a un homme religieux qui vient et qui invite Jésus, parce que visiblement, il est intéressé par ce que Jésus dit. Et puis, il dit, tiens, viens manger chez moi. Et pendant le repas, il y a une femme, et la Bible dit pécheresse. Alors, on peut s'imaginer ce que ça peut être. Une femme pécheresse, peut-être une femme adultère, peut-être une femme qui volait. Moi, j'ai une interprétation un peu plus hard, si je puis dire, moins soft. Je pense que cette femme était sans doute prostituée. C'était une fille, une femme de joie. Ou une femme qui avait plusieurs amants. Enfin, bref. Et cette femme entre, elle sait que Jésus est là, et elle entre dans le lieu où Jésus mangeait avec cet homme, et puis... Elle pleure, elle mouille ses pieds avec ses larmes, pour vous dire, d'où l'expression pleurer à chaudes larmes. Ça coule, ça coule. Il y a quelque chose qui sort de son cœur, qui sort de son corps, de son âme, et qui se répand sur le pied de Jésus. Et puis, elle les essuie avec ses cheveux, elle l'embrasse les pieds de Jésus, et puis elle prend du parfum, elle répand du parfum sur ses pieds. Alors moi, je trouve que c'est assez étonnant d'une femme qui avait sans doute la réputation d'être volage, vous ne trouvez pas ? Moi, j'aurais trouvé ça choquant. Et là, cette femme, elle ne fait pas un acte qui est un acte de ce qu'elle faisait quand elle rencontrait des hommes. Elle fait un acte d'adoration, elle fait un acte de reconnaissance. Et moi, ce qui m'interpelle dans ce passage de la Bible, et je me dis, mais qu'est-ce qui pousse cette femme à faire ça ? Qu'est-ce qui l'amène à un moment donné de se dire, je m'arrête, je me rends compte que j'ai besoin d'autre chose dans ma vie que ce que je vis aujourd'hui, mais qu'est-ce qui pousse cette femme à aller vers Jésus et faire des actes aussi beaux, aussi tendres, aussi touchants ? Je crois que il y a une première des choses que cette femme fait. C'est qu'à un moment donné dans sa vie, elle se rend compte que sa vie ne peut plus être ce qu'elle était. Elle gagne peut-être de l'argent, elle vit, mais en réalité, elle s'aperçoit que le système dans lequel elle fonctionne, c'est un système où elle survit, où la paix n'est pas dans son cœur, où elle n'est pas paisible, si vous voulez. Et puis bon, on sait ce que c'est, hein. Une femme qui est pécheresse, soit qui a eu beaucoup d'amants, ou soit qui était prostituée, elle, au regard de la société, on a un regard sur cette femme qui n'est pas très sympathique, il faut dire ce qui est. Et les gens disent souvent qu'ils croient sans pour autant changer de direction. Là, ici, cette femme, elle fait quelque chose qui est très intéressant. Elle ne dit pas qu'elle croit. Mais à un moment donné, elle s'arrête. Et à un moment donné, elle change de direction. Elle arrête de donner son corps. Elle va aller donner ses larmes. Elle va arrêter de donner sa bouche aux hommes. Elle va donner sa bouche aux pieds de Jésus. Elle va arrêter de se parfumer elle-même pour plaire aux hommes. Elle va aller parfumer les pieds de Jésus. Il y a un moment dans la vie de cette femme, il y a quelque chose qui me touche au plus haut point. C'est qu'elle va s'arrêter. Et elle va dire, maintenant, ma vie change de direction. Maintenant, ma vie ne sera plus ce qu'elle a été. Maintenant, ma vie, je ne mettrai plus du parfum pour plaire aux hommes, mais j'irai donner mon parfum à Dieu. Je ne verserai plus de larmes parce qu'à la sortie de tout acte sexuel que j'aurais pu faire, mais j'irai répandre mes larmes aux pieds du Seigneur. Et ça, vous savez ce que la Bible appelle ça ? C'est la repentance. C'est un changement de direction, un changement de vie. Et souvent, les gens vous disent, pour être sauvé, il faut croire. C'est d'ailleurs ce que dit la Bible. Mais je pense qu'avant de croire, il faut à un moment donné s'arrêter et se rendre compte que notre vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Et à un moment donné dans notre vie, il faut savoir et avoir le courage et l'honnêteté de dire qu'il y a le feu qui couve dans un coin de notre vie. Parce que si on ne le fait pas, on cache les choses en espérant que ça ira mieux. Et en réalité, un jour ou l'autre, toute la maison va s'enflammer. Et les gens, lorsque Jésus commence son ministère, vous savez, Jésus commence son ministère dans sa propre ville. Mais la première des choses qu'il dit, il ne dit pas « croyez en moi ». Ça, c'est un peu plus tard. Mais la première des choses qu'il fait, vous irez vérifier si vous avez une Bible, il dit « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, car le royaume de Dieu est venu vers vous. Repentez-vous, changez de direction. Soyez conscient que votre vie ne peut pas continuer à être ce qu'elle est, parce que moi, je veux éteindre le feu dans votre cœur. » Et tant qu'on ne s'est pas repenti, on ne peut pas faire de place pour Jésus. Clairement, sa femme, si elle avait continué à faire ce qu'elle faisait, Elle n'aurait pas pris le temps à un moment donné de s'arrêter d'aller chez le pharisien et cet homme religieux et d'aller aux pieds de Jésus pour l'adorer, pour le remercier, pour être reconnaissante, pour l'aimer tout simplement. Et souvent les gens disent, ah oui, on ne peut pas, je n'arrive pas à aller, à prendre de place pour Dieu dans ma vie. J'ai pas le temps. Vous avez déjà remarqué ça? Moi, je discute avec beaucoup de gens, même avec des collègues de boulot. Je leur dis, mais qu'est-ce que Dieu est pour toi? Ou même avec des gens, puisque je suis pasteur, donc je discute avec pas mal de personnes. Des gens qui vont régulièrement dans les églises et puis d'autres qui y vont moins, clairement. À chaque fois, je leur pose la question, je leur dis, mais qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre du temps pour Dieu? Vous savez, la réponse qu'on me dit tout le temps, toujours, j'ai pas le temps. Mais en réalité, le j'ai pas le temps, c'est un faux problème. Le « j'ai pas le temps », ça devrait être « Dieu n'est tout simplement pas ma priorité ». Il faut avoir l'honnêteté de le dire à un moment donné. J'entends parler de Dieu, on me demande de faire de la place pour lui, mais si je ne m'arrête pas à un moment donné, je ne rentrerai pas dans une vraie relation avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Bon, ça tombe bien. Et puis, il y a cet homme religieux qui se dit en lui-même. Alors, il sait, il connaît la femme. Il sait, il l'a déjà vue. Sans doute, elle était là devant chez elle, et puis elle faisait des clins d'œil à ces messieurs qui passaient, et elle le voyait monter avec des hommes dans sa maison. Et cet homme religieux, ça représente souvent des chrétiens, le système religieux, mais ça représente aussi des gens qui peuvent penser ou croire des choses de nous. Et il dit, si cet homme était prophète, si Jésus était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il est choqué. Et moi, je reste persuadé que j'aurais été choqué. J'aurais été choqué par le fait qu'une une fille de joie s'approche de Jésus et puis qu'elle le... Mais j'aurais dit, mais quand même, elle est gonflée, celle-là. Ça nous interpelle sur le jugement qu'on porte aux autres. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Et souvent, dans notre vie, on juge les gens. Oh, peut-être pas vous, mais moi, oui. J'ai l'honnêteté de le dire devant vous ce matin. On se donne toujours une image de la première impression qu'on a des gens. Vous avez déjà remarqué ça? Et puis, souvent, je suis repris dans ma conscience. Lorsque je lis que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Il n'est pas venu pour ceux qui sont sauvés, mais pour ceux qui sont perdus, et pour la ramener dans le cœur, près du cœur du Père. Et cet homme est un homme qui juge. Il est en train de juger cette femme. Il est en train même de juger Jésus. Il dit, oh, Jésus se dit prophète, il se dit envoyé de Dieu, mais a-t-il réellement du discernement? Moi j'en ai, dit-il, et je sais qu'il ne voit pas que cette femme est une femme pécheresse. Ce que je voudrais vous dire à travers ça, c'est que dans nos vies, on rencontre tout le temps des hommes, religieux ou pas. Et c'est... ces hommes et ces femmes, parce que tout à l'heure, je veux être équilibré. J'ai dit que la pécheresse concernait aussi les hommes et je dis que ceux qui accusent concernent aussi les femmes. Comme ça, je reste politiquement correct. Vous avez remarqué? Très équilibré. Il y a ce que les autres pensent de nous. Et je voulais juste vous dire une chose. On est et nous sommes influencés et nos actions et notre foi est déterminée par ce que les autres vont penser de nous. Avez-vous remarqué ça? Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais très jeune, donc c'est il y a quelques années, je me souviens que, au début, comme ça, j'ai partagé ma foi à beaucoup de gens. J'étais un peu foufou, hein. Il fallait que je partage le trésor que j'avais trouvé. J'avais vraiment fait une rencontre, mon épouse et moi, on avait vraiment fait une rencontre avec le Seigneur. Et parce que des gens m'ont dit, ils se sont moqués de moi, avec le temps, j'ai fini par me taire. Et avoir peur de ce que les gens pouvaient penser de moi. Et je me souviens que, pour ceux qui me connaissent, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, quand j'étais jeune, gamin, j'étais accueilli parce que j'étais un enfant difficile. Et donc, il y a un prêtre dans ma paroisse qui m'avait accueilli, qui avait pris sous son aile dans le bon sens du terme. Hein, il n'avait pas fait de choses... Et Il m'avait dit, je vais prendre soin de toi. Il priait pour moi. Et puis, j'étais enfant de cœur. Donc, je servais à la messe. Je faisais plein de bêtises, mais il m'aimait. C'était extraordinaire. Et je me souviens que quand je suis allé voir mes parents, j'ai dit, tu sais, maman, j'ai rencontré le Seigneur. Et vous savez ce que mes parents m'ont dit, surtout ma maman, elle m'a dit, ah, tu renies ta foi. Ben, je dis non, justement, c'est tout le contraire. Avant, j'étais dans un système religieux. Maintenant, je suis rentré dans une vraie relation avec Dieu. Parce qu'en réalité, le système religieux ne sauve pas. C'est pas l'Église qui sauve. C'est pas le fait d'aller au culte le dimanche qui sauve. C'est celui qui prend sa transgression, qui l'amène devant Dieu comme cette femme et qui reçoit le pardon de Dieu et qui rentre dans une nouvelle relation avec Dieu. Ça, c'est ça qui sauve. Il n'y a aucun système religieux qui sauve. Il y a ce que nous pensons de nous-mêmes. Alors souvent, moi, je me mets à la place de cette femme. Entre nous, franchement, je me serais senti hyper mal à l'aise de me retrouver devant celui qui était envoyé par Dieu avec un tel poids sur mes péchés, sur mes épaules. Je pense que cette femme, elle vient devant lui et elle a le cœur lourd. Elle a le dos lourd. Regardez d'ailleurs comment se tient-elle. Il est écrit dans ce passage qu'elle se tient derrière lui. Elle n'ose même pas aller face à lui. Elle se tient derrière lui, discrète. Elle essaye de s'approcher. Elle essaye de... Vraiment, elle s'approche avec beaucoup d'humilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un énorme poids de culpabilité sur ses épaules, tout simplement. Parce qu'il y a ce que les gens pensent d'elle, ce que les gens disent d'elle, mais il y a aussi ce qu'elle, elle dit et ce qu'elle pense d'elle. Et lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il y a nos transgressions et il y a des choses que nous avons faites dans nos vies qui ne sentent pas bon. C'est pas vrai ? Il y a des fois des choses que nous avons faites et qui ne sont pas belles. Et souvent, notre réaction est « je me tiendrai loin de Dieu, je n'entrerai même pas dans la maison ». De l'homme religieux. Je n'irai même pas derrière lui. Pourquoi ? Parce que nous avons un problème de culpabilité. Parce que l'image que nous avons de Dieu est celle d'un Dieu qui punit, un Dieu qui fait du mal. Moi, j'étais tout petit, ma mère me disait, quand c'était l'orage, c'est Dieu qui se met en colère. Parce qu'on a été élevé dans un... C'est peut-être anodin, ça, mais dans le système religieux tel qu'il est pratiqué quasiment partout en France et dans le monde, on donne l'image d'un Dieu qui est mauvais. On donne l'image d'un Dieu qui n'aime pas. On donne un Dieu... Ou soit on donne ça, ou soit on donne un Dieu qui pardonne tout, quoi. Fais ce que tu veux, tu verras. C'est Michel Polnareff qui chantait « On ira tous au paradis hein. ». C'est faux, hein. On n'ira pas tous au paradis, hein. Je vous le dis, hein. Malheureusement, à un moment donné, Jésus le dit, on séparera les brebis des boucs. La brebis, c'est celle qui aura découvert son péché devant le Seigneur et qui aura déposé son péché et qui aura permis à Dieu de lui pardonner. Et il y a ce que Jésus pense. Et moi, j'aimerais que vous arrêtiez sur ce que Jésus pense. Parce qu'il y a ce que tu penses, il y a ce que les autres disent de toi, mais qu'est-ce que Dieu dit ? Et regardez ce qu'il dit. Simon, est-ce que tu vois cette femme ? Bien sûr que Simon la voit physiquement. Bien sûr que Simon la connaît, parce qu'il l'a déjà vue, parce qu'il sait qu'elle est pécheresse, il sait qu'elle vend son corps. Et mais Jésus dit, vois-tu cette femme ? Vois-tu ce qu'il y a à l'intérieur d'elle ? Voilà ce que Jésus est en train de dire. Voilà ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vois au centre de son âme ? Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu vois qu'elle voit qu'elle a le feu en elle et qu'elle me demande d'éteindre ce feu ? Est-ce que tu vois ça ? Dit-il à Simon. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle les a mouillés avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé de l'huile, d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle, elle a beaucoup aimé. Waouh ! Quelle parole de guérison pour cette femme ! Quelle parole de réprimande pour l'homme religieux ! Quelle parole de réprimande pour le système religieux ! Mais quelle parole de vie pour quiconque voit son péché, connaît son péché et ouvre son cœur et le place devant Dieu. Alors je voudrais juste être équilibré dans ce que je dis, toujours politiquement correct. Je voudrais juste vous dire une chose, parce que juste avant, je vous souvenais que je vous ai dit, on dit tous qu'on ira tous au paradis, que tous nos péchés seront pardonnés, etc. Cette femme, elle a compris quelque chose. C'est que pour éteindre le feu, on a en général besoin d'eau ou d'un extincteur. Vous avez déjà remarqué ça ? Vous savez ce qu'il est écrit dans la Bible lorsque Jésus fut sur la croix ? Il est écrit que son flanc a été percé. C'est-à-dire qu'il était sur la croix. Et on mourait à l'époque, vous savez de quoi on mourait ? Quand on était crucifié d'asphyxie. On mourait en réalité d'un œdème pulmonaire. Et il agonisait depuis quelque temps sur la croix. Et à un moment donné, un soldat a pris une lance, lui a percé le flanc, et de l'eau et du sang en sont sortis. Et vous savez ce que cette femme avait compris ? C'est que ce n'était pas simplement l'amour pour Dieu dont nous avons besoin, mais de comprendre que la justice de Dieu, que seule l'eau et le sang qui sont sortis du corps de Jésus peuvent pardonner les gens. Et vous voulez que je vous dise un truc ? Aujourd'hui, on dit aux gens, crois et tu seras sauvé. Mais c'est bien plus que ça. C'est que il faut être à un moment donné capable, si on imagine la croix ici et Jésus en train d'agoniser, le moment où Jésus a été transpercé, c'est de se placer, d'ouvrir notre cœur. Je sais, c'est gore ce que je vous dis, mais c'est réellement, spirituellement ce qui se passe. C'est d'ouvrir notre cœur et de dire, voilà, Seigneur, donne-moi la douche de la purification par l'eau qui sort de tes entrailles. Et donne-moi la purification par ton sang. Lave-moi et purifie-moi. Et cette femme, elle a compris cela. Cette femme, elle a compris que lorsqu'elle va voir Jésus, elle ne va pas chercher uniquement du réconfort, mais elle va rechercher ce qui est essentiel dans la vie de chaque être humain. Je le dis, de chaque être humain. Tu n'as pas besoin de gagner au loto. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle maison. Tu n'as pas besoin d'avoir tout l'or du monde. Le plus grand trésor que tu peux recevoir, c'est d'avoir à un moment donné ta vie être lavée et purifiée par le sang de la croix, par le sang qui a coulé à la croix et qui doit couler dans ton être tout entier. Et cette femme l'a compris. C'est pourquoi elle va tout donner. Ses larmes, son parfum, ses baisers. Parce qu'aujourd'hui, elle sait que c'est à travers sa relation avec Jésus qu'elle trouvera le salut, qu'elle trouvera la paix dans son cœur. Beaucoup de gens sont tourmentés, beaucoup de gens sont mal dans leur être intérieur parce qu'ils n'ont pas reçu ce que cette femme avait reçu. Grand était le péché de cette femme, je vous l'accorde. Grand est le péché de cette femme. Grand est souvent notre péché. Si on ne réalise pas ce que Jésus le dit, à celui à qui on pardonne peu aime peu. Vous savez, notre problème de relation que nous avons avec Dieu, c'est quoi ? je vous donne la réponse, là. C'est que souvent, on ne se rend pas compte combien nous avons besoin d'être pardonnés. Et plus on se rend compte qu'on a besoin d'être pardonné, plus grand sera notre amour pour lui. Et donc, nous avons chanté tout à l'heure « Ranime ce feu en moi ». C'est ça, on l'a chanté, hein. « Ranime ce feu en moi ». Et vous savez comment Dieu peut ranimer ce feu de la relation avec lui ? Lorsque tu prendras conscience réellement du besoin que tu as d'être pardonné de tes péchés. Lorsque tu prends conscience que ton péché est grand et que tu as besoin vraiment d'être délivré de cela. Maintenant, je vais vous parler de la religion. Parce que souvent, j'entends dire, voilà, il y a des gens qui sont très honnêtes avec eux-mêmes. Moi, en tant que pasteur, je le vois, ils me disent « moi, je ne crois pas, point ». C'est des gens, vous savez, froids, glacial pour tout ce qui est spirituel. Ça se discute encore, parce que j'ai déjà vu des gens qui étaient très fermés, puis au moment où leur vie a basculé, parce que notre vie bascule un jour ou l'autre, ces gens, ils vous appellent, vous comprenez ça ? Toute leur vie, ils disent « moi, je ne crois pas », puis un beau jour, ils disent « bah tiens, et si j'allais chercher, s'il y avait un Dieu qui existait ? » Enfin bref. Et un jour, Jésus, ce que je veux dire, c'est que souvent on se dit, bah moi je vais à l'église une fois tous les 6 mois. Moi je vais à l'église une fois tous les ans. Oh non, mais moi, tu sais, je vais à l'église, je fais toutes les, comment on appelle ça, les messes de minuit. Ouais. Ou alors je vais dans les églises évangéliques lorsque, je ne sais pas, moi, il y a une présentation d'enfants, par exemple, etc. Donc il y a des gens qui sont religieux. Et Jésus prend l'exemple de 2 types de personnes. Il y a des gens, il prend l'exemple dans l'évangile, de personnes qui ont été massacrées alors qu'elles étaient en train de faire des sacrifices d'animaux. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pour être pardonné, il fallait faire des sacrifices d'animaux. Bref. Et pendant qu'elles étaient donc en train de faire un acte religieux, elles ont été massacrées. Et Jésus ne dit pas « Ah, mais c'est dégoûtant, quoi. » Enfin, pardonnez-moi l'expression, il n'y a pas d'enfant. C'est dégueulasse, quoi. C'est pas bien. Non, Jésus ne dit pas ça. Et tout de suite après, il dit « Il y a 18 personnes qui sont tombées du haut d'une tour, accidentellement. » Et il ne dit pas, parce que ça, j'entends ça aussi, « Et si Dieu existait ? » Et si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Et si Dieu existait, il n'y aurait plus de catastrophe. Et si Dieu existait, etc., etc. La réponse de Jésus, quand il... Alors, moi, je n'ose pas la faire, celle-là, hein, parce que je ne suis pas Jésus. Mais Jésus, vous savez ce qu'il leur répond, là ? Il leur dit, si vous ne vous repentez, donc, si vous ne faites pas comme cette femme, si vous continuez à cacher vos transgressions, vous périrez tous également. Waouh ! Ouais, Dieu est amour. Dieu est amour parce qu'il sait, il connaît la clé, il connaît ce qu'il doit se passer dans notre cœur pour nous amener vraiment à la vie. Aimer, ce n'est pas cacher la vérité. Là, il dit la vérité. Il dit, si vous ne vous repentez, vous allez tous périr. Moi, je me mets devant une personne qui me dit, ben si, s'il y avait des guerres, pourquoi y a-t-il des guerres ? Si Dieu existait, il n'y aurait plus de guerre. Vous imaginez que je réponde à la personne, ben, repends-toi parce que tu vas finir comme eux. Mais je n'ose pas encore le faire. Et pourtant, c'est ce que Jésus fait ici. En fait, il est en train de dénoncer la religion. Il est en train de dénoncer le système religieux, l'homme religieux. Il est en train de dire, tu auras beau faire des actes religieux, tu auras beau faire des choses religieuses, tu pourras beau venir ici à l'église chanter ou prêcher ou faire tout ce que tu veux, faire de l'accueil, ce n'est pas ça qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est la foi après la repentance. L'acte religieux ne sauve pas, seule la foi précédée de la repentance nous amène à la vie éternelle. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est intéressant. Bon sujet de méditation. Bon sujet de méditation. Bon sujet de réflexion. Parce que j'ai entendu hier une dame qui disait « J'aime beaucoup Noël parce que c'est le temps de la trêve. » Donc il y a des gens qui ne se parlent pas pendant des années, pendant tout le reste de l'année, et ils s'invitent et ils font la trêve pendant Noël. Et ils jouent les hypocrites. « Ah, viens manger à la maison, j'ai du bon foie gras, j'ai acheté du bon saumon, j'ai un bon champagne, etc. etc. » Et les gens, c'est comme si le monde s'arrêtait à un instant donné. Et puis le 26 au matin, les gens se lèvent et ils repartent comme avant. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religiosité. Ça, c'est l'hypocrisie de notre monde. Or, la vérité, c'est de dire « je règle mon problème aujourd'hui ». Méditez cela dans ces temps de Noël. Dieu ne veut pas faire la trêve. Il ne veut pas qu'on fasse la trêve entre nous. Mais Dieu veut faire la paix éternelle. Et là, c'est tout à fait différent. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.